êtes bien sur Radio Orient, il est midi. À la une, la guerre au Moyen-Orient, l'Iran attaque à nouveau des bases militaires américaines au Koweït, Donald Trump menace de frapper à tout moment. L'Algérie durcit le ton face au narcotrafic. Le pays a annoncé la transformation d'une caserne militaire en prison de haute sécurité située dans un désert. L'été, les températures peuvent même atteindre les 50 degrés. On y revient. La surpopulation carcérale en France au 1er août, le nombre de détenus dans les prisons françaises atteint 89 000, un chiffre inédit. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonneau, dénonce sans relâche une surpopulation carcérale record dans tout le pays. Et dans ce journal, cette question, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, les femmes musulmanes pourront-elles encore porter le voile dans l'espace public? Le RN assume son projet de son côté fustigé par la France insoumise. Le Moyen-Orient toujours en alerte. L'Iran a attaqué des intérêts militaires américains au Koweït malgré la menace de nouveaux bombardements proférés par Donald Trump. Les attaques menées par Washington suivies d'une riposte d'envergure iranienne. Le président des États-Unis avertit que les États-Unis restaient prêts à frapper à tout moment la République islamique qui a, je cite, juré de briser l'ennemi américain. L'Ukraine a officiellement saisi l'Organisation de l'aviation civile internationale pour l'alerter sur les dangers liés à l'utilisation de l'espace aérien russe. Kiev demande même que ses États membres soient encouragés à y interdire les vols civils. Alors que les attaques de drones ukrainiens perturbent régulièrement le trafic aérien en Russie, cette démarche vise aussi à accroître l'isolement du pays et à faire peser davantage les conséquences de la guerre sur sa population. Ils vont pouvoir rentrer en France. Après cette épreuve au Togo, les deux réalisateurs français qui avaient été arrêtés fin juillet sont enfin autorisés à quitter le territoire de ce pays d'Afrique. C'est annonce du Quai d'Orsay aujourd'hui. Gaël Mocaer et Sébastien Pérez Pezzani se sont vus signifier une décision de mise en liberté provisoire le 1er septembre avec autorisation de quitter le territoire. Déclaration de la diplomatie française dans un communiqué. Je vous en parlais dans les titres. L'Algérie va transformer une caserne militaire située dans le désert de Tanesfrout, l'une des régions les plus inhospitalières au monde, en prison de haute sécurité pour les narcotrafiquants. Une annonce hier de la présidence algérienne. Avec vous les précisions, Nawel Alamouchi.
Oui, cette annonce a été prise hier, mercredi, lors d'une réunion du Haut Conseil de sécurité présidée par le chef d'État algérien Abdelmajid Tebboune. Vous l'avez dit, la future prison sera réservée aux barons de la drogue et aux trafiquants, selon un communiqué de la présidence qui n'a pas donné à l'heure actuelle d'autres détails. Les autorités algériennes ont aussi décidé de créer un organisme sécuritaire spécialisé dans la lutte anti-drogue sur le modèle d'agence qui existe déjà dans plusieurs pays, notamment la Drug Enforcement Administration, la DEA, aux États-Unis. Cette annonce, elle intervient alors que les autorités algériennes multiplient les mises en garde contre l'essor du trafic de stupéfiants dans le pays. Selon des chiffres de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, l'Algérie comptait en 2024 plus de 3 millions de toxicomanes. Le pays compte au total 46 millions d'habitants. Les autorités algériennes annoncent régulièrement des saisies d'ampleur. Le 21 août, par exemple, elles ont annoncé avoir intercepté plus de 10 millions de capsules de pregabaline, une substance psychotrope, et 33 kg de cocaïne, présentée comme une saisie record. Cette future prison serait donc située dans le désert du Tanesrouf, dans l'extrême sud-ouest algérien, à la frontière du Mali. Un désert quasi inhabité où les températures peuvent dépasser les 50 degrés en été. Cette région, elle est quand même surnommée pays de la soif, rien que ça, car elle est considérée comme l'une des plus reculées et surtout l'une des plus hostiles du Sahara.
Merci beaucoup Nawel pour toutes ces précisions. La France est l'un des plus mauvais élèves en Europe en matière de densité carcérale, ex aequo avec la Turquie. 131 personnes détenues pour 100 places. Les prisons françaises comptaient 89 668 détenus au 1er août, en augmentation de 6,5% sur un an. Matelas au sol, insalubrité, traitement dégradant. La contrôleuse des prisons Dominique Simonneau dresse un tableau accablant de la surpopulation carcérale en France et pointe l'inaction persistante des pouvoirs publics. On l'écoute.
Je trouve tout à fait normal que des gens soient mis à l'écart, même aillent en prison parce qu'ils ont commis des délits, des infractions. Mais il faut bien penser qu'un détenu coûte à nos impôts 3 900 € par mois, que c'est énorme dans des conditions épouvantables, parce que dans les maisons d'arrêt qui sont surpeuplées en moyenne à 170%, et nous on les voit à 200-250%, c'est aussi, ça grouille de rats, de punaises de lit, de cafards, il n'y a pas d'accès aux activités, pas d'accès au sport, pas d'accès à la formation, pas d'accès au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de détenus, il manque 5 000 surveillants. Il n'y a même pas assez de surveillants pour emmener un détenu au service médical à l'intérieur de la prison. 30 à 40% des rendez-vous médicaux dans la prison sont annulés, faute d'avoir pu amener les détenus chez le médecin de la prison. Je ne sais pas comment vous dire à quel point, en plus, c'est inefficient. Parce que ce serait super, on se dirait, bah, y a un taux de réinsertion formidable. C'est le contraire qui se passe. Parce que de la manière dont on traite les gens dedans, forcément, rejaillira la manière dont ils se conduisent dehors.
La France est, avec la Turquie, le plus mauvais élève en Europe en matière de densité carcérale, avec 131 personnes détenues pour 100 places. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans les mauvaises conditions de détention?
Mais je pense qu'il y a en France une espèce de fascination pour l'enfermement que je ne m'explique pas. Pourquoi il y a tant de gens enfermés? Je ne sais pas. Pourquoi chez nous, il y en a plus qu'ailleurs? Pourquoi l'Espagne a réussi à faire décélérer sa surpopulation carcérale? Pourquoi l'Italie? Pourquoi l'Allemagne? L'opinion publique, comme on dit, on lui a appris à se détourner de ça.
Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, au micro d'Inès Gilles. Dans le reste de l'actualité, le député Rassemblement National de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, évoquait dimanche soir le projet de son parti, le Rassemblement National, de sanctionner une amende les femmes portant le voile dans l'espace public, une proposition confirmée dès le lendemain par Marine Le Pen, candidate à la prochaine élection. Louis Alliot, maire Rassemblement National de Perpignan, dénonce lui une attaque contre un projet politique. Il était l'invité ce matin sur TF1.
La vérité, c'est qu'il y a un projet politique en France qui vise à influencer dans les quartiers, dans un certain nombre de villes, la jeunesse et très tôt. Et c'est contre cela qu'il faut d'ailleurs lutter. Et c'est pour cela qu'on a mis en avant ces mesures-là. Et ça passe pas seulement par l'interdiction du voile dans l'espace public, ça passe d'abord par l'interdiction du voile dans un certain nombre de services publics. Et qu'en s'attaquant aux intérêts du projet politique islamiste en France, on réglera aussi, d'une certaine manière, cette affaire de voile. C'est pas une attaque contre la religion et contre l'islam, c'est une attaque contre un projet politique qui nous attaque lui-même sur nos fondamentaux de la République française.
Et la proposition suscite de nombreuses réactions. Pour Clémence Guettet, députée de la France Insoumise, le projet du RN d'interdire le port du voile dans l'espace public est une mesure raciste. Elle s'est exprimée chez nos confrères de RMC.
Ce que cette polémique vise à faire aussi, c'est à distiller toujours plus une forme d'idéologie qui assimile islamisme radical avec les musulmans de ce pays. Les musulmans de ce pays veulent juste croire. Et ça, c'est la laïcité qui le permet. C'est permettre aux gens de croire et de ne pas croire. Voilà. Et moi, je suis pour qu'on s'en tienne à cette définition stricte de la laïcité. Je trouve ça offensant, je trouve ça raciste et j'en ai marre, par ailleurs, qu'on fasse des plateaux de télé entiers sur ce sujet. Stigmatiser toujours les personnes musulmanes de la part du Rassemblement National, c'est juste la filiation idéologique. Le FN, c'est la même chose que le RN. L'année qu'on va vivre, c'est aussi une année où on sait que le Rassemblement National, il est très fort pour la présidentielle qui arrive. Et on a pour but, nous, de convaincre justement plein de gens qui doivent rentrer dans le combat politique et qui doivent aller s'exprimer en 2027 pour montrer que ce pays n'est pas raciste, ne veut pas de l'extrême droite au pouvoir.
Et à noter que le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a reconnu hier lors d'une conférence de presse avoir changé d'avis, évolué au cours des années sur la question du port du voile et qu'il qualifiait par le passé de signe de soumission patriarcale. Cet été, marqué par des canicules à répétition, une sécheresse inédite par son ampleur, d'après les premières données collectées par le ministère de l'Économie, les productions agricoles ont été considérablement affectées par ces différentes vagues de chaleur. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a évoqué sa stratégie en deux étapes pour aider les cultivateurs, les éleveurs et producteurs. Jean-François Rousset, député Renaissance de la 3e circonscription de l'Aveyron, s'intéresse de près à ce sujet.
Les agriculteurs ont vécu un été terrible, mais la population aussi d'ailleurs, puisque les gens ont eu l'impression d'être obligés de se confiner à nouveau, tellement les températures étaient élevées, interdisaient toute activité, en particulier les après-midi. Moi, je suis d'Aveyron, c'est un territoire d'élevage, de pastoralisme, de brebis, puisque l'essentiel de l'activité, c'est la production de lait pour le fromage de Roquefort. Et effectivement, les températures ont impacté directement nos agriculteurs, puisque ils ont l'habitude de les nourrir avec leur production herbagère, à laquelle ils apportent très peu de compléments, et surtout de les sortir dans la journée, puisque ça fait partie du cahier des charges de l'AOP Roquefort. Et là, cet été, ils ont subi donc les conséquences de cette chaleur inhabituelle. Ils ont essayé de sortir les brebis dans les bois, mais par exemple, je connais un agriculteur qui a vu 6 de ses brebis tuées par le prédateur, qui est le loup, donc qui est présent aussi maintenant dans le sud d'Aveyron. Et ils ont entamé les réserves qui étaient destinées à passer l'hiver en termes de fourrage. Et donc c'est très préoccupant. Et je connais un agriculteur personnellement qui commence à se séparer d'une partie de son cheptel, puisque les brebis qui sont un petit peu âgées, donc a priori moins productives, il va les vendre. Et les brebis jeunes qui devraient être pleines, c'est-à-dire porter un ou deux agneaux, et ben ils vont s'en séparer parce que elles n'apporteront pas la ressource attendue. Voilà, donc c'est
voilà, et là c'est son mode de vie qui est bouleversé, son pouvoir d'achat qui est fortement amputé avec cela.
Et puis surtout moralement c'est très difficile parce que les difficultés s'accumulent après les difficultés liées donc à l'augmentation des charges, liées à l'augmentation de l'énergie, liées à l'augmentation du prix de gasoil, du prix des intrants, et même si en Aveyron ils n'utilisent pas beaucoup d'intrants, pas beaucoup d'engrais, ils subissent quand même de plein fouet. Et ce qu'ils me disent, c'est que là, pour le moment, c'est dur, très dur. Il y a une négociation sur le prix du lait qui se passe pas très bien pour la filière Roquefort avec l'industriel Lactalis, puisqu'on leur propose d'emblée des diminutions de 20 euros par 1000 litres de lait de brebis produit. Ça dit rien, mais si je vous dis que ça représente pour un troupeau moyen du Sud-Aveyron de 300 brebis, ça fait un manque à gagner de 1800 euros par an. Donc c'est pas négligeable. Et ce qu'ils disent donc, c'est que ces difficultés vont toutes éclater en même temps vers de grandes difficultés à la fin de l'automne, voire novembre-décembre. Parce que là, il va falloir payer, il va falloir taper la trésorerie, et donc ils sont vraiment très très inquiets.
Ouais, c'était Jean-François Rousset, député Renaissance de la 3e circonscription de l'Aveyron. Il sera l'invité de François-Xavier de Calonne de votre émission Pluriel ce soir à 19h. Et puis enfin, pour terminer, un mot de football avec l'ouverture de la 3e journée de Ligue 1. Ce soir au programme à 20h45, Toulouse affronte Lille. Radio Orient, il est 12h13. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est tout à l'heure à 13h.